Europe 1, il est midi.
Europe Midi, Romain Desarbres.
Bonjour à tous et bienvenue dans Europe Midi, votre grand rendez-vous d'information de la mi-journée sur Europe 1. À la une, la terrifiante agression d'une patiente à l'hôpital Cochin à Paris, violée alors qu'elle dormait aux urgences. Le récit de David Montagnier. On sera également à midi 20 avec l'avocat de la patiente et avec le professeur Mégarban du syndicat des médecins des hôpitaux de Paris. L'interdiction de la corrida qui passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, proposition de loi de la France insoumise. Est-ce véritablement une priorité pour la France insoumise et pour la France tout court ? Alexandre Chauveau est avec nous. Et puis on sera avec un ancien matador à midi et demi. Et avec vous, évidemment, vos réactions au 39-21. Êtes-vous pour ou contre la corrida ? J'attends vos appels. Plus de 2 millions de Français cumulent deux emplois pour s'en sortir financièrement. Portrait d'un couple avec Margot Faudéré. Une policière qui manque de tomber du troisième étage, poussée par un délinquant lors d'une interpellation dans un appartement. Le frère de ce trafiquant de drogue qui se montre violent avec les policiers. Faut-il expulser les délinquants des HLM ? On en parle avec le maire de Neuilly-sur-Marne, Zartosht Bakhtiari. Il sera en direct avec nous à 12h45. La tendance météo, Anissa Haddadi, avec une journée calme hein, pour presque tout le monde.
Oui, c'est vrai que nous sommes entre deux perturbations, donc le temps est assez calme, ça s'éclaircit même par rapport à ce matin sur les trois quarts est du pays. Mais, car il y a un mais, Romain, une nouvelle perturbation arrive par la Bretagne avec deux départements, vigilance orange, vague submersion.
Merci Anissa et à tout à l'heure pour la météo complète.
Europe 1.
C'est une histoire absolument sordide. Une femme de 34 ans, violée alors qu'elle était hospitalisée pour un malaise à l'hôpital Cochin à Paris. Les faits se sont déroulés à la fin du mois d'octobre. La victime a porté plainte contre X. Bonjour David Montagnier.
Bonjour Romain.
Service police-justice d'Europe 1. Racontez-nous comment tout cela s'est passé.
Eh bien, c'est dans la nuit du 28 octobre, cette jeune femme de 34 ans est victime d'un malaise et d'une chute à la sortie d'un bar. La jeune femme perd connaissance, mais avant l'arrivée des pompiers, un homme rôde et la regarde avec insistance, d'après des témoins. Quelques minutes après, c'est lui qui simule un coma éthylique au même endroit. Les pompiers reviennent donc et le conduisent, comme la jeune femme auparavant, à l'hôpital Cochin. Sur place, l'individu la cherche, fait le tour des box, il parvient à la trouver et la viole au sein même de l'hôpital. Après lui avoir volé sa carte bancaire, ses cris font fuir l'agresseur qui parvient à quitter l'établissement. Il sera arrêté un peu plus tard dans la soirée.
Alors David, vous avez des informations sur le profil du suspect. Hein.
Oui, tout à fait. C'est un homme de 22 ans, sans papier, se déclare d'origine jordanienne. Il serait arrivé en France illégalement en 2019, selon ses déclarations. Il était sous le coup de deux ordonnances de quitter le territoire, selon les informations du Parisien. Sous deux identités différentes. On apprend qu'il a été arrêté plusieurs fois depuis 2019 pour vol, recel, usage de drogue. Il a également été suspecté de viol sur mineur en Seine-et-Marne en 2020, mais l'affaire a finalement été classée sans suite. Il a donc depuis les faits mis en examen et écroué.
Sous le coup de deux OQTF. Hein.
Tout à fait. Et la dernière remonte au mois de juillet.
David Montagnier, merci David pour ces informations. On va y revenir hein, avec l'avocat de la patiente qui sera avec nous à midi 20 et avec le professeur Mégarban qui est chef du service réanimation à Lariboisière, l'hôpital Lariboisière à Paris et membre du syndicat des médecins des hôpitaux de Paris. Faut-il inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution ? Faut-il interdire la corrida ? Deux questions au cœur de la niche parlementaire de la France Insoumise. C'est une journée dédiée à l'examen des propositions de loi du parti. Cela a commencé à 9h ce matin. Les députés ont jusqu'à 0h, jusqu'à minuit pile, pas une minute de plus, pour se pencher sur tous les textes et leurs nombreux amendements. Alexandre Chauveau avec nous. Bonjour Alexandre.
Bonjour Romain, bonjour à tous.
Où en est-on de cette course contre la montre ?
Eh bien, les députés débattent toujours de la première proposition de loi de la France Insoumise pour faire entrer le droit à l'IVG dans la Constitution. LR dénonce une surenchère sociétale. La NUP et le gouvernement y sont favorables, mais débattent de la manière de rédiger le texte, car pour être voté, celui-ci doit également obtenir la majorité au Sénat, qui a rejeté le mois dernier une proposition en ce sens. Mathilde Panot, députée LFI et rapporteure du texte, a défendu sa proposition tout à l'heure.
Cette proposition de loi vise à se prémunir d'une régression en faisant de l'attente à ses droits la tâche la plus ardue possible. Quiconque souhaitant s'y attaquer devra avoir les mains liées. Notre souhait est clair. Nous ne voulons laisser aucune chance aux personnes hostiles à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
Précisons que pour faire examiner cette proposition de loi en premier, la France Insoumise en a finalement supprimé deux autres, l'une en faveur de la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les Uber Files, l'autre sur l'augmentation du SMIC à 1600 euros. Et si les discussions sur la constitutionnalisation de l'IVG aboutissent avant ce soir, alors ce sera au tour de l'interdiction de la corrida d'être débattue dans l'hémicycle.
Alors Alexandre, en imposant le thème de la corrida, le député France Insoumise Émeric Caron a réussi à diviser l'ensemble des groupes à l'Assemblée. Hein.
Oui, sujet très clivant au sein même des différents partis. D'ailleurs, la majorité des groupes a décidé de ne pas donner de consigne de vote à ses députés. Ainsi, le gouvernement s'oppose à l'interdiction de la corrida, même si Aurore Berger, la présidente du groupe Renaissance, est pour, tout comme son vice-président Sylvain Maillard. Les députés du Sud sont globalement vent debout. Il y en a un certain nombre au RN, qui est par ailleurs attaché au bien-être animal. Voyez, le texte divise, mais s'il réussit à être examiné, il devrait a priori être rejeté. Un nombre important de députés, y compris étant opposés à la corrida, ont par ailleurs relevé l'attitude, je cite, exécrable d'Émeric Caron dans les débats en commission.
Alexandre Chauveau, merci Alexandre. Et on sera donc à 12h45 avec André Viard, qui est un ancien matador et président de l'Observatoire national des cultures taurines. Et avec vous au 39-21. Êtes-vous pour ou contre la corrida? Ben, on va en débattre. Vous témoignez dans Europe Midi. Vous l'avez remarqué, les températures ont sérieusement chuté ces derniers jours. On ressort les gros pulls et on remet en route son chauffage. Mais beaucoup de Français n'échappent pas au froid, même quand ils sont chez eux. On estime à 20% le nombre de ménages qui peinent à se chauffer correctement. Aujourd'hui, c'est la journée de la précarité énergétique. Et à cette occasion, Mélina Fachin a rencontré un habitant de Plombières-les-Bains, dans les Vosges. Il vit au quotidien dans une passoire thermique.
On peut sentir le frais dans les murs et au niveau des sols.
La maison de Benjamin est une passoire thermique avec un diagnostic de performance énergétique classé F. Avec la crise, ses factures de chauffage ont atteint des niveaux astronomiques.
La maison a chauffé donc uniquement avec mes deux poêles à peler. En 2021, la tonne était aux environs de 250 euros. Au mois de juillet et août, la tonne de pelée était à 800-850 euros. Nous devrions consommer pour un hiver environ 5 à 6 tonnes.
Soit presque 5000 euros par an.
Et c'était pas du tout au programme.
Alors malgré son salaire de policier et celui de sa femme, conseillère funéraire. Pour la première fois de sa vie, Benjamin a demandé de l'aide à une association, Solia, qui va l'aider à rénover son logement. Jérémy François, technicien.
Ce qui va être fait, ça va être l'isolation extérieure, l'isolation des combles et les menuiseries. On passe d'une étiquette F à une étiquette D. 35% d'économie d'énergie, pratiquement 2000 euros à l'année.
C'est une excellente nouvelle.
Pour cela, Benjamin a droit à 17 000 euros d'aide, mais il va devoir convaincre une banque de lui prêter les 50 000 restants pour vraiment rénover sa maison. Plombières-les-Bains, Mélina Fachin, Europe 1.
Et c'est justement pour agir sur les prix de l'énergie que les 27 ministres concernés dans l'Union européenne se réunissent aujourd'hui à Bruxelles. Agnès Pannier-Runacher est présente pour représenter la France. Principal sujet de cette réunion, l'instauration d'un plafond pour le prix du gaz. La vie est de plus en plus chère et parfois un seul salaire ne suffit plus, si bien que de nombreux Français font le choix de cumuler les emplois. Selon les dernières données de l'INSEE, plus de 2 millions de Français sont dans cette situation. Margot Faudéré avec nous. Bonjour Margot.
Bonjour.
Service économie d'Europe 1. Quel est le profil type des personnes qui ont plusieurs jobs?
Eh bien, dans 3 cas sur 4, ce sont des salariés qui exercent une autre activité en tant que salarié d'après l'INSEE, c'est-à-dire qu'ils ont deux employeurs en même temps. La plupart du temps, ils travaillent dans le tertiaire, dans les services donc, et notamment dans le commerce, un secteur où les salaires avoisinent le SMIC d'après la fédération CGT, commerce et services. Alors les travailleurs, surtout ceux à temps partiel, multiplient les emplois pour s'en sortir, explique Stéphane Leroux, secrétaire fédéral de la fédération.
Et ça demande une organisation colossale. Je prends l'exemple d'une hôtesse de caisse qui va démarrer dans une grande surface à 9h ou 10h du matin et qui va aller faire des ménages communaux, par exemple.
Et face à l'inflation, de plus en plus de Français sont obligés de multiplier les emplois, comme cet agent de sécurité parisien qui fait des extras dans l'événementiel.
Avec un salaire de 1600 euros, 1700 euros par mois, il y avait des mois où j'étais à 500 euros de découvert. Ça nous oblige soit de faire un deuxième boulot, soit de nous rabattre vraiment sur les produits de petite catégorie.
En tout cas, cumuler plusieurs emplois n'a rien d'illégal, à condition de respecter la durée légale du travail.
Margot Faudéré, merci beaucoup Margot. Restez bien avec nous sur Europe 1, dans Europe Midi. On fait une petite pause et on se retrouve juste après. On ira à Rennes. Rennes, où à 13h sera annoncé le nom du gagnant du Goncourt des lycéens. A tout de suite.
Europe Midi. Romain Desarbres.
On connaîtra dans moins d'une heure, à 13h, le nom du lauréat du prix Goncourt des lycéens 2022. 4 romanciers sont en lice pour succéder à l'auteur Clara Dupont-Monod, vainqueur l'année dernière. On vous retrouve à l'hôtel de ville de Rennes, Charles Guyard. C'est là-bas que l'heureux élu sera désigné. Les lycéens sont en train de délibérer, hein.
Oui, des 15 romans, à la base, il n'en reste plus que 4 et dans un peu moins de 45 minutes, maintenant un seul sortira vainqueur de cette 35e édition. Pour l'heure, les lycéens issus de filières générales et professionnelles sont toujours en train de débattre dans une salle fermée à double tour au 3e étage de l'hôtel de ville de Rennes. Mathieu Barville, chargé de programmation nationale livre pour la FNAC, co-organisateur de l'événement avec le ministère de l'Éducation nationale.
Les lycéens sont arrivés à 9h, ils viennent de toute la France et de là, ils vont avoir 3 heures pour défendre leur livre favori et convaincre les autres. Ils sont dans la salle jusqu'à 12h30. On a deux personnes qui veillent au bon déroulement des débats. Ils n'ont pas leur portable avec eux. À l'ère des réseaux sociaux, forcément, on est particulièrement vigilant, mais c'est vraiment un huis clos. En fait, aucune info ne filtre avant la proclamation. Ils sont les garants de ce secret qui va être proclamé à 12h45.
Et on connaîtra alors celui ou celle qui succédera à Clara Dupont-Monod, lauréate en 2021. Le vainqueur du jour se verra ensuite remettre son prix ce soir à Paris, directement des mains de Pap Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale.
Charles Guyard, à Rennes, pour Europe 1, le gagnant de ce prix Goncourt des lycéens, va peut-être un jour, pourquoi pas, voir son nom attribué à une rue. C'est tout le malheur qu'on lui souhaite. Beaucoup d'auteurs ont eu ce privilège, beaucoup d'hommes politiques également, plus rarement des chanteurs. Et bien dans le village de Saint-Jean-d'Heure, dans le Puy-de-Dôme, on a décidé de bousculer cet état de fait. Jusque-là, les rues n'avaient aucun nom. Il y avait des lieux dits, mais pas de nom de rue. Après consultation des habitants, le maire a sélectionné les noms de 48 chanteurs et chanteuses. Reportage sur place, signé pour Europe 1, bien sûr. Jean-Luc Boujon.
Devant vous, vous aurez la rue Johnny Hallyday. Ensuite, vous aurez la rue Jean Ferrat. Il y aura une rue Vianney. Il y aura rue Pomme, rue Renault, rue MC Solar, rue Calogero.
Et vous, vous habiterez où ?
Rue Freddy Mercury.
D'ici quelques jours, Saint-Jean-d'Heure deviendra l'un des plus originaux villages de France, avec ses rues en hommage aux stars de la chanson, des stars de toutes les générations, explique Boris Luciani, l'adjoint à la culture.
Le but, c'était vraiment de mettre tous les styles pour que tout le monde puisse se reconnaître, que les plus anciens, les plus jeunes puissent se retrouver dans ces noms. La musique, c'est vrai que ça parle à tout le monde.
Il y a un an, donc, on a demandé aux 700 habitants de proposer 3 noms de chanteurs ou de chanteuse pour leur rue. René n'a eu aucune hésitation.
Moi, je suis un fan de Johnny, j'ai des rues Johnny Hallyday pour moi. C'est sympa, ça change un peu d'avoir tous ces noms de politique, de maire, c'est plus populaire.
Bonne nouvelle pour René, sa rue, l'une des plus grandes du village, portera bien le nom de Johnny. Paula, elle habitera
rue Kurt Cobain. On est très contents. Ouais. Nous, on trouve que c'est une très bonne idée. Ça rajeunit un peu l'endroit aussi.
Ça va pogoter alors ici?
Ah, complètement. Complètement.
Les toutes nouvelles plaques de rue seront installées d'ici une quinzaine de jours. Saint-Jean-d'Heure, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Voilà, je crois que je préfère habiter rue de Johnny Hallyday que rue Kurt Cobain. Mais bon, ça après, chacun les goûts et les couleurs. Bon, reportage de Jean-Luc Boujon. C'est le 5e jour de la Coupe du Monde de football au Qatar. Europe 1, radio officielle de la Coupe du Monde. Deux géants font leur entrée dans le tournoi aujourd'hui. Le Portugal de Cristiano Ronaldo contre le Ghana à 17h. Et le Brésil de Neymar à 20h contre la Serbie. Match à suivre en intégralité dans Europe 1 Sport. En ce moment même, la Suisse affronte le Cameroun, la Suisse qui domine le Cameroun, 1-0 pour les Suisses, donc face aux Camerounais. Nos Bleus, eux, se remettent de leur belle victoire contre l'Australie mardi. Le prochain match face aux Danois, samedi, est dans toutes les têtes. Alors comment les joueurs gèrent-ils ces périodes très particulières entre deux rencontres ? Réponse de l'internationale française de foot et consultante d'Europe 1, Wendy Renard.
Le lendemain du match, on peut faire du vélo, on peut courir un peu, on peut rester en salle, faire de la muscu du haut. Abdos, gainage et puis cryothérapie, bain froid, massage avec les kinés, soigner les petits bobos. Et puis après, pour ceux qui n'ont pas joué ou très peu joué, il y a une séance de fête pour pouvoir rattraper, on va dire, le temps de jeu des coéquipiers.
La récupération peut vous faire gagner un match si c'est bien fait?
Ah oui, c'est important, surtout quand on va loin dans une compétition. Faut prendre conscience que notre corps, c'est notre outil de travail.
Voilà, Wendy Renard, interrogée par Jacques Vendroux, et notre consultante sera sur le terrain ce soir. Les féminines de l'Olympique Lyonnais affrontent le FC Zurich en Ligue des Champions. La Bourse est Claire Lemaître de boursier.com. Bonjour Claire.
Bonjour Romain.
La Bourse à Paris, ça donne quoi ? Quelle est la tendance ?
Eh bien, ça monte encore ce midi, plus 0,6% pour le CAC 40, 6721 points. Alors l'ambiance est calme, c'est Thanksgiving, donc Wall Street va rester fermée, mais on digère le compte rendu de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine et le document est jugé rassurant en matière de taux. La valeur du jour, c'est Elior, plus 8% pour le groupe de restauration grâce à un possible rapprochement avec De Richbourg, son premier actionnaire, un rapprochement dans les services qui est donc salué par le marché ce midi. Ailleurs, en Europe, l'ambiance est optimiste. Forte hausse pour le DAX à Francfort, plus 0,9%, plus 0,2% pour Londres, plus 0,3% pour Madrid, plus 0,6% pour Amsterdam. Et le CAC 40 est donc au-dessus des 6700 points, 6721 points ce midi, Romain.
Claire Lemaître, merci Claire. À demain.
À demain.
Allez là, le temps à présent, la météo avec vous Anissa Haddadi, deux départements en vigilance orange en Bretagne.
Oui, deux départements sont concernés par ces vigilances, le Morbihan et principalement l'ouest du Morbihan. Et le Finistère en vigilance orange vague submersion. Parce que c'est vrai que même si nous avons un contexte plutôt calme pour ce jeudi, nous avons une nouvelle perturbation océanique qui arrive par la Bretagne et par l'ouest du pays. Donc cet après-midi sur le Finistère, une partie des Pays de la Loire, nous avons des averses, un ciel très couvert et du vent sur les côtes jusqu'à 80-90 km/h. Et avec un contexte de forte marée, de grande marée, nous avons un risque de vague submersion. Donc sur le Morbihan et le Finistère, prudence, pas de balade en bord de mer. Sur la Nouvelle-Aquitaine s'est couvert cet après-midi et partout ailleurs, c'est plutôt ensoleillé, de belles éclaircies, surtout au bord de la Méditerranée. On a encore un petit peu de vent aujourd'hui sur la Corse. Les températures, 10 à Charleville-Mézières, 11 à Lille, 13 pour Paris, 15 à Carcassonne et La Rochelle, 17 degrés pour Toulon, 20 à Bastia.
Merci Anissa. La météo, voilà, avec Anissa Haddadi. L'horreur à l'hôpital Cochin à Paris. On en a parlé dans le journal. Une jeune femme violée alors qu'elle était soignée aux urgences de cet hôpital parisien. On sera avec l'avocat de la patiente, l'avocat de la victime, et avec un médecin, membre du syndicat des médecins des hôpitaux de Paris. Restez bien avec nous. On se retrouve juste après la petite pause pub. À tout de suite.
Europe Midi. Informez-vous avec Romain Desarbres sur Europe 1.